RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, aujourd'hui 10% de la population mondiale ne mange pas à sa faim. Alors comment allons-nous nous nourrir en 2050 quand nous serons 10 milliards ? D'autant que nous savons désormais que l'agriculture produit des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et qu'elle détruit le vivant si nous n'adoptons pas des techniques durables à grande échelle. À l'occasion de ses 40 ans, le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, a réuni cette semaine à Paris de nombreux experts pour explorer des pistes de solutions pour répondre à cette question. Cet organisme mobilise des chercheurs français en partenariat avec des chercheurs locaux dans plus de 100 pays pour améliorer la souveraineté alimentaire. Certains sont avec nous aujourd'hui.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Éric Malézieux.
Bonjour.
Vous êtes agronome, vous avez fait toute votre carrière au CIRAD où vous êtes directeur de recherche, spécialiste de l'évolution justement des systèmes alimentaires. Ça tombe bien par rapport à notre thématique du jour. Alors vous avez travaillé dans de nombreux pays, aujourd'hui vous êtes en Guadeloupe. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces 40 ans du CIRAD ?
Ah bah, c'est toute une carrière dédiée un peu à la recherche agronomique pour le Sud. J'ai commencé en Côte d'Ivoire. Il y a une quarantaine d'années, au moment de la création du CIRAD, justement.
Vous avez l'âge de... Enfin, l'âge en termes de carrière de l'institution.
En termes de carrière, un peu l'âge de l'institution, voilà, exactement. Et donc, petit à petit, voilà, je me suis intéressé à l'évolution des agricultures et principalement de l'horticulture aussi, puisque j'ai surtout travaillé sur ces éléments-là dans différents pays d'Afrique, mais aussi d'Amérique, d'Asie. Et là, je termine dans la Caraïbe.
Oui, parce que je le disais, le CIRAD est présent dans une centaine de pays. Et le principe de cet organisme de recherche, c'est que donc il y a des chercheurs français, mais qui travaillent en lien très, très étroit avec les chercheurs locaux.
Oui, absolument. Le principe du CIRAD depuis sa création, c'est vraiment de faire de la recherche en coopération et donc en collaboration avec les institutions de recherche du Sud et avec, bien sûr, tout le paysanat de ces différents pays. C'est vraiment, je dirais, dans les gènes du CIRAD que de pratiquer une recherche avec les acteurs des pays du Sud.
Alors justement, nous avons la chance, grâce à cet anniversaire, d'en avoir avec nous aujourd'hui dans ce studio. Bonjour Florence Angaba-Fonté.
Bonjour.
Vous êtes vice-doyenne en charge de la recherche et de la coopération à la faculté des sciences de l'université de Bamanda, dans l'ouest du Cameroun. Comment est-ce que vous travaillez avec le CIRAD, vous ?
Ah, moi, je suis membre du conseil scientifique du CIRAD. Nous avons souvent des réunions pour apprécier les projets, comment ça évolue, les projets de CIRAD dans les différentes zones du monde qui concernent le développement agricole.
Ouais, ils sont nombreux, nous allons en parler dans cette émission. Avec nous aussi dans ce studio, Andri Rassami Manana, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et responsable du CEFEL. Le CEFEL, c'est le centre de formation et d'expérimentation en fruits et légumes à Madagascar qui dépend de la FIFATA, hein, qui accompagne quand même 370 000 exploitations dans 12 régions du pays. Et vous aussi, vous travaillez avec le CIRAD.
Oui, effectivement, en tant qu'organisation paysanne, on a besoin d'innover, de faire des recherches et tout ça. Et c'est très important, le lien avec les chercheurs, pour apporter les défis climatiques, pour trouver des solutions ensemble.
Farida Taboudou, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous êtes, vous aussi, agronome. De toute façon, voilà, il y a beaucoup d'agronomes qui travaillent avec le CIRAD. Vous travaillez, vous, au Bénin, au LARES, le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, avec lequel vous êtes en train de développer une plateforme qui réunit des chercheurs, des entrepreneurs et des consommateurs pour créer une filière autour du niébé, ce petit haricot blanc avec un œil noir. Là, vous allez nous en parler dans un instant. Alors, pour dessiner le cadre de notre discussion, comment nourrir justement 10 milliards d'habitants en 2050 sans détruire la planète ? Éric Malézieux, il faut tout de suite expliquer, en partant de la situation d'aujourd'hui, hein, que le sujet, ce n'est pas le manque de nourriture. On produit beaucoup de nourriture sur la planète. La base du problème, c'est qu'il y a une répartition qui est vraiment inégale.
Oui, On a souvent considéré que la faim dans le monde était liée à un manque de nourriture. Ça a été le paradigme longtemps, pendant les années 70. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition dans le monde. Ces personnes ne sont pas réparties de façon aléatoire. On sait très bien que la sous-nutrition frappe principalement l'Afrique, l'Asie. L'Asie en nombre de personnes sous-nutries, mais l'Afrique en pourcentage, 20% de personnes malnutries en Afrique. On a aussi 3 milliards qui ne peuvent accéder sur la planète à une alimentation saine. Donc on a véritablement un problème qu'on ne sait pas résoudre. Et pourtant, ce n'est pas le manque global de nourriture le principal problème. Le problème, c'est une question d'accès avant tout, qui est principalement exacerbée par les conflits et bien sûr par la pauvreté finalement.
Et par le changement climatique.
Et par le changement climatique, mais le changement climatique qui impacte, lui, la production agricole. Et c'est vrai que ce changement climatique va impacter certaines crises. Mais le fond des choses, c'est vraiment une répartition de la nourriture entre les différentes populations. Et la question aujourd'hui de la sécurité alimentaire dans le monde, ce n'est pas tellement produire plus de nourriture. C'est véritablement comment la produire, comment la distribuer, comment y accéder, comment la consommer. Comment faire qu'elle puisse parvenir auprès des plus démunis qui souffrent aujourd'hui de la faim.
Alors, Andri Rassami Manana, quelle est la situation en matière de sécurité alimentaire à Madagascar ?
Donc, pour le cas de Madagascar, c'est un pays en voie de développement, tellement c'est un pays agricole, parce que 80% ce sont des populations rurales. Mais malheureusement, on enregistre 44% de populations qui sont sous alimentation et aussi des retards de croissance chez 42% des enfants de moins de 5 ans. Donc c'est vraiment une situation qui est un peu alarmante. Cependant, c'est un pays avec beaucoup de potentiel. Mais cette sécurité alimentaire est vraiment accentuée par des multiples facteurs. Il y a tout d'abord la croissance démographique très, très, très importante. Par contre, la productivité est vraiment faible. Il y a un problème sur la fertilité des sols. Il y a des aléas climatiques qui sont liés avec le changement climatique, des cyclones un peu violents, retard de pluie qui entrave la saison.
Mais de grosses sécheresses dans le sud, en a beaucoup parlé.
Et grosses sécheresses aussi à l'inverse.
Voilà, donc ça illustre bien ce que disait Éric Malézieux. Le souci, c'est en effet de pouvoir produire mieux à Madagascar et nourrir la population. Vous avez des solutions pour ça? Vous allez nous en parler dans un instant. Florence Angaba-Fonté, au Cameroun, quelle est la situation?
La situation n'est pas très différente. Au fur et à mesure que le temps passe, on constate une augmentation des pourcentages des gens mal nourris au Cameroun. C'est maintenant plus de 40% de la population qui est mal nourrie. Avec la croissance démographique aussi, ça devient encore plus difficile. Même la mortalité des enfants, la malnutrition, c'est même plus accentué chez les groupes vulnérables, comme les enfants de moins de 5 ans. Il y a une forte tendance que la production baisse à cause du changement climatique. Il y a la désertification.
Donc des sols qui sont de moins en moins productifs.
Pas de pluie, parce que c'est semi-aride dans le nord. Dans le sud, il y a maintenant les changements de calendrier, des pluies et des choses comme ça. Parfois, les pluies sont trop intenses. Il y a aussi le problème des distributions, comme notre collègue a dit, distribution des produits agricoles, les problèmes de conservation. Il y a beaucoup de pertes post-récolte. Il n'y a pas la possibilité de bien conserver pour que pendant la saison sèche, par exemple, on peut l'utiliser. Et donc, il y a toutes ces choses. Et il y a la crise à l'Ukraine qui cause maintenant que les entrants pour la production agricole deviennent très élevés. Il y a vraiment beaucoup de choses.
Éric Malézieux.
Quand j'ai donner le panorama un peu de l'alimentation dans le monde, enfin de la faim, j'ai oublié de mettre en parallèle aussi. C'est la situation écologique finalement de la planète sur laquelle il faut dire un mot, parce que le bilan est quand même assez catastrophique de l'évolution de l'agriculture intensive depuis les années 50 jusqu'aux années 70. Et on s'est réveillé un peu dans les années 2000 avec la gueule de bois devant l'étendue des impacts écologique et sanitaire, avec les impacts sur la biodiversité, la destruction des ressources, la contribution au dérèglement climatique de l'agriculture. 20% du dérèglement climatique est due à l'activité agricole quand même. La dégradation des sols, soulignée largement, hein, 33% des terres cultivables dans le monde quand même. Qualité des eaux aussi, avec les pesticides, et de l'air. Donc on a toute cette situation qui est quand même assez catastrophique, avec tout un système pour lequel la demande croissante en produits importés aussi dans les pays du Nord a nécessité dans beaucoup de pays tropicaux d'augmenter leur surface cultivée. Les palmeraies en Asie, par exemple, les pâturages, etc., la déforestation de l'Amazonie pour nourrir des animaux. Enfin, toute cette situation crée finalement un contexte écologique assez alarmant aujourd'hui, dégradé, dont on a parfaitement conscience et pour lequel il est important de trouver des solutions. Voilà.
Farida Taboudou, au Bénin, quelle est la situation en termes de sécurité alimentaire?
Bon, avant d'arriver au Bénin, je vais commencer par la région. Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, c'est 12% de la population qui sont en phase de crise alimentaire et nutritionnelle. On a à peu près les deux tiers des ménages de l'Afrique de l'Ouest qui n'arrivent pas à s'offrir une alimentation saine. Au Bénin, c'est un peu plus de 550 000 personnes qui sont en phase de crise ou urgence alimentaire et un peu plus d'un million et demi qui sont en phase de stress. Et à peu près 80% des ménages n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation saine. Donc ici, j'évoque la question d'insécurité alimentaire, mais également d'insécurité nutritionnelle. Et ces chiffres, vous voyez que ça s'accorde bien à la situation mondiale et reste une préoccupation majeure parce que au-delà des sources que mes prédécesseurs ont abordées, je vais mentionner en complément la question des fluctuations de prix sur le marché aujourd'hui parce que l'accès aux produits alimentaires aussi passe par le marché et les prix sont à un niveau tel que ce n'est pas du luxe ou ce n'est pas facilement accessible aux ménages d'une part, mais également toutes les perturbations au niveau régional qui ont forcément des répercussions sur l'accès, les populations déplacées qui perdent leurs moyens de production et qui se retrouvent en situation de vulnérabilité. Et également le grossissement des villes qui devient une préoccupation majeure et facteur d'aggravation de cette situation alimentaire déjà difficile.
Alors aujourd'hui, un Africain sur cinq ne mange pas à sa faim et la population du continent va doubler d'ici 2050. Il faut donc mettre en place des solutions dès maintenant pour assurer la sécurité alimentaire du continent. Mais la bonne nouvelle est que nous connaissons les solutions et nos invités vont vous les présenter dans un instant. Mais d'abord, place à la musique sur RFI avec le Sénégalais Sékou Keïta et son titre « Bodoula ». Odoula du Sénégalais Sékou Keïta, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
À l'occasion des 40 ans du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, nous nous demandons comment nous pourrons nous nourrir quand nous serons 10 milliards en 2050, tout en préservant l'ensemble du vivant et l'environnement. Et cela se prépare dès maintenant. Éric Malézieux, vous dites qu'il faut favoriser la souveraineté alimentaire à différentes échelles. Ça veut dire quoi ?
Oui, parmi les solutions, c'est, je pense, le plus longtemps. Si l'on a considéré que l'on produisait assez à l'échelle de la planète, on s'est dit, bon, il suffit de favoriser finalement les transferts, favoriser le commerce international.
La mondialisation des accords de libre-échange comme le Mercosur,
etc. Ouais. Les aliments dont ils ont besoin. Et on voit bien que cette solution finalement est un leurre, parce que des bergers, elle ne fonctionne pas. Et en plus, il y a beaucoup d'exemples qui montrent comment les importations massives suffisamment d'aliments limitent aussi le développement local de l'agriculture et de l'agrotransformation. Donc la souveraineté alimentaire, cette façon de produire ses propres aliments, elle est devenue nécessaire. En fait, on l'observe à différentes échelles, déjà à l'échelle du continent. On voit bien que des importations de riz massives, par exemple, ne sont pas des solutions durables et ne permettent pas le développement de filières locales, de céréales locales ou de légumineuses locales.
Ça, on le voit sur le continent africain.
Elles sont des obstacles même au développement. Aux échelles nationales, par exemple, on voit bien au Maghreb aussi comment la crise des pays donc du Maghreb, très dépendants du blé ukrainien, comment la crise en Ukraine a constitué d'importants problèmes d'alimentation aussi. Et enfin, aux échelles régionales, des échelles micro-régionales, je travaille actuellement dans la Caraïbe, aux Antilles, en Guadeloupe, et on voit à travers l'actualité récente, en Martinique notamment, avec le problème de la vie chère, comment il est difficile finalement d'assurer une alimentation saine à la population dans un contexte agricole et économique un peu hérité du passé, qui consiste finalement à exporter des biens vers la métropole, hein, comme il y a plusieurs centaines d'années, je dirais, aux dépens finalement d'une production locale, finalement, à la
qui permettrait de nourrir les gens à la Guadeloupe.
D'accéder, je dirais, à un seuil raisonnable d'autosuffisance. Il ne s'agit pas non plus de devenir à 100% d'autosuffisance, mais au moins un seuil raisonnable d'autosuffisance. Donc on voit bien ces économies-là, finalement, qui mériteraient finalement d'atteindre des niveaux d'autosuffisance plus importants pour réguler la situation. Et ça, donc, on décline à plusieurs échelles, des petites échelles régionales comme ça, donc des territoires aussi en Afrique, enclavés, etc., jusqu'au continent, au continent africain.
Il faut donc produire autrement, et c'est dans cette logique, Andri Rassami Manana, que vous accompagnez plus de 369 000 exploitations familiales dans 12 régions à Madagascar. Et vous avez notamment un centre de formation et de production qui s'étale sur 20 hectares, dans lequel vous formez plus de 1600 producteurs chaque année, que vous appelez des paysans relais. Alors relais, pourquoi ? Pour l'agroécologie. Expliquez-nous cela.
Oui, effectivement. Donc, au niveau de FIFATA, nous, on a une vision d'une agriculture familiale professionnelle, compétitive, qui s'agrandit dans le respect de l'environnement. Mais là, vu la situation, changement climatique, défis, vulnérabilité des ménages, l'accessibilité en intrants a été aussi soulignée. Hein. Il y aura des services qui ont été créés donc, pour pouvoir atteindre cette vision-là.
Donc, alors, c'est quoi la vision ?
La vision, c'est l'agriculture familiale, compétitive, qui s'agrandit professionnelle, et tout en respectant l'environnement. Donc, pour faire face à tout cela, la question qui se pose, c'est que comment nourrir la famille ? Comment produire encore plus pour nourrir d'abord la famille, pour avoir des revenus un peu décents, et aussi pour nourrir les autres, pour améliorer encore la productivité, tout en réduisant, donc, n'est pas tellement dépendant des intrants extérieurs, qui a été souligné tout à l'heure, qu'il y a le cœur d'Ukraine qui fait monter les prix. On est encore dépendant des intrants extérieurs, y compris donc les engrais minéraux qui deviennent de plus en plus chers et peu accessibles. Donc pour toucher les 370 000 exploitations agricoles familiales, c'est un peu difficile. Il faut déployer beaucoup de moyens. Donc il faut agir dans une démarche échange entre producteurs. Donc comment pour y arriver à cette transition-là, c'est de tout d'abord, partir des besoins des contextes locaux, voir les besoins de renforcement de compétences via l'expérimentation, la formation, l'accompagnement et surtout privilégier ces échanges agriculteurs-agriculteurs. Donc au sein de l'association CFL qui a été créée par FIFATAN, on a un centre de formation. C'est un centre un peu de référence sur l'agroécologie, démonstratif, expérimental. Donc il y a des producteurs relais qui sont formés. Une fois que ces producteurs relais sont formés, ils vont rentrer chez eux en appliquant les connaissances qu'ils ont pu acquérir donc, au niveau de CFL dans leur champ, qui est devenu un champ de démonstration, un champ école pour les producteurs, pour former leurs pairs. Mais ça permet aussi de produire les intrants agroécologiques qu'on appelle, parce que là aussi l'accessibilité des intrants agroécologiques aussi bloque un peu la transition agroécologique. Si je vais prendre un exemple concret, pour réduire l'utilisation des engrais de synthèse, là, on peut utiliser des composts, différents types de composts qui sont aussi riches en éléments minéraux que les plantes ont besoin de l'azote, du phosphore et du potassium.
Alors, est-ce que ça fonctionne, ce système de paysans relais?
Ça fonctionne et c'est vraiment un système qui peut rémunérer aussi le paysan relais. Soit ils font le service pour la formation, l'accompagnement, soit ils font des produits. Pour la transition agroécologique, tout le monde ne peut pas produire leur propre intrant. Ça va étouffer l'exploitation, on va produire de l'ombrique, on va produire des biopesticides, on va produire beaucoup. Mais il pourrait y avoir des producteurs qui vont produire et qui pourraient vendre auprès de membres les produits pour que la transition va dans ce sens-là. Et ça a besoin aussi des compétences.
Alors vous faites aussi de la recherche pour développer des variétés locales adaptées, notamment la pomme de terre et le riz. Le riz, c'est très important à Madagascar, c'est la base de l'alimentation.
En effet, c'est vraiment la base de l'alimentation. Pour vous donner quelques chiffres, c'est qu'un malgache mange environ 130 kg de riz par an. Le problème avec on n'est pas autosuffisant en riz, on a besoin encore d'importation du riz. Par contre, on est vraiment réputé sur la culture du riz. Le riz en rizière, il y a peu de surface, c'est peu limité. Donc, avec la recherche CIRAD et FOFIFA, qui est la recherche locale, il y a cette recherche participative de variétés du riz pluvial qui se font sur Tanit, sur la colline. Et cette recherche de variétés du riz répondant bien aux besoins des utilisateurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les consommateurs. Idem aussi pour la pomme de terre, il y a vraiment une maladie très dévastatrice qui a mis au mal à la filière. On a besoin de recherches pour trouver les solutions avec nous pour éradiquer cette maladie-là. Il y a des pistes de solutions qui sont testées et qui ont prouvé leurs effets, des solutions durables, agroécologiques. Et une fois qu'on diffuse cette solution-là auprès des producteurs, ça permet aussi d'augmenter la production de pommes de terre. Et donc cette recherche-action avec la recherche pourra contribuer pleinement à comment nourrir le monde durablement.
En tout cas, vous témoignez bien de solutions locales qui fonctionnent. Florence Angaba-Fauté, combiner la production alimentaire avec la préservation de l'environnement, c'est devenu un défi majeur pour nous tous, on l'a bien compris, mais c'est aussi une question de santé publique. Parce que quand on écoute le témoignage de Andri, on voit bien qu'il dit qu'on s'émancipe des produits chimiques et on peut quand même nourrir les exploitations familiales à Madagascar.
Ah oui, il vient d'ouvrir un débat en ce qui concerne les pratiques agricoles qui ont des influences très directes sur la qualité des produits que nous consommons. Ça nous revient à parler du concept de One Health.
Une seule santé.
Une seule santé. Tout ce qu'on fait va jouer sur la qualité du produit qu'on va récolter, le produit qu'on va consommer, et ça va nous tous, nous les consommateurs, affecter notre santé d'une façon ou d'une autre. Et si on exerce les pratiques néfastes, ça va nous rendre malades.
Alors, qu'est-ce que vous appelez les pratiques néfastes?
Oui, les pratiques néfastes, par exemple, d'utilisation des engrais chimiques, par exemple. Tout produit chimique, quand on utilise pour élever peut-être les animaux ou bien pour faire pousser les plantes, il y a des résidus qui restent dans ces plantes. Et quand ça s'accumule dans nos corps, moi je prends par exemple les antibiotiques. Dans le secteur élevage, beaucoup des éleveurs utilisent les antibiotiques, pas seulement pour lutter contre les maladies, mais aussi pour promouvoir la croissance, accélérer la croissance de ces animaux. Ce qui a été interdit dans le monde entier, on ne doit plus utiliser les antibiotiques pour promouvoir la croissance des animaux. ça peut créer la résistance des antibiotiques aux consommateurs à la longue.
Donc après, quand on est malade, on prend un antibiotique, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Et peut-être le médecin sera obligé d'augmenter la dose. Donc, cet aspect de One Health, si on peut remplacer, on peut essayer, c'est ce que nous faisons à l'université, dans notre équipe de recherche, de voir comment est-ce qu'on peut avoir des substitutions de ces produits chimiques, comme les antibiotiques. Par exemple, dans la littérature, il y a beaucoup de plantes aromatiques, il y a aussi des épices qui ont été prouvées d'avoir des composés actifs dont les gens utilisent pour soigner certaines choses traditionnellement. Donc, dans notre équipe de recherche, nous essayons de faire l'extraction de ces composés bioactifs et maintenant d'utiliser dans la production des animaux pour promouvoir la croissance, pour remplacer les antibiotiques qu'on utilise.
Et est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les éleveurs modifient leur méthode? Parce qu'il y a la recherche, et puis après, il faut qu'elle soit appliquée, cette recherche.
C'est ça le problème, la vulgarisation, la valorisation de ces résultats de recherche. Il faudra que ça soit, le fermier peut accéder à ça, parce que les antibiotiques sont très faciles à avoir. Il n'y a pas tellement de contrôle. Même dans les marchés locaux, vous partez, vous achetez les antibiotiques et vous utilisez comme vous voulez. Donc, il y a ce défi de pouvoir mettre ce que nous avons développé pour pouvoir remplacer les antibiotiques. Ça, c'est un exemple dans le secteur animal. Il y a aussi des exemples comme la production des engrais organiques.
Alors, on va maintenant parler un peu végétaux, justement, avec vous, Faridat Aboudou, au Bénin. Avec le LARES, le Laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, vous êtes en train de créer une filière locale d'un haricot blanc, hein, je le disais, avec un petit œil noir qui a un nom différent dans chaque pays. Hein. Alors, j'ai fait une petite revue. Alors, on dit, vous me corrigez, mais le Veilly au Togo, la Bobo au Bénin, le Koki au Cameroun, hein, c'est ça, vous confirmez, le Benga au Burkina Faso, le Koundré au Comores, la Dopo au Nigeria, le Mbwengi au Congo ou encore le Tcho au Mali. C'est bon ?
Bah oui, vous avez parcouru assez rapidement.
J'ai fait un petit tour d'Afrique comme ça. Bref, ce petit haricot a beaucoup de qualités et donc vous êtes en train de développer une filière au Bénin à travers une plateforme où vous mettez ensemble les consommateurs, des PME, des petites et moyennes entreprises et des chercheurs. Expliquez-nous ça.
Exactement, c'est une réponse locale, territoriale à une problématique mondiale, humanitaire que nous proposons avec cette dynamique qui est en cours autour de la plateforme dénommée Aïdote Minawanu, qui est en langue fon et qui littéralement veut dire en ayant l'esprit éveillé, on arrive au bout de nos objectifs. Et c'est pour traduire un peu l'effort et l'engagement qui oriente cette dynamique en cours-là. Et la dynamique mise un peu sur la promotion des produits à base de niébé. Le niébé, qui est ce haricot, je vais dire ici en Europe qu'on appelle cornille. Et ces différents noms que vous avez pu dire en Afrique, voilà. Et en
effet, il y a beaucoup de vertus, cet haricot.
Oui. Ce haricot est très présent dans le régime alimentaire en Afrique de l'Ouest, mais particulièrement au Bénin, et représente un patrimoine culinaire, on va dire. Le volet intéressant de ce haricot, c'est qu'il est une importante source de protéines végétales et qui vient un peu répondre à l'alternative aujourd'hui de pouvoir diversifier les sources de protéines et de réduire également la pression sur la sollicitation des sources de protéines animales dans le monde. D'une part, c'est également riche en fibres et en vitamines du groupe B.
Alors le problème du niébé, c'est que pour le travailler, c'est compliqué. Et puis avec la vie urbaine, on a tendance à perdre un peu tout ce savoir traditionnel. Et par exemple, pour fabriquer la farine de niébé, il faut décortiquer d'abord les haricots, etc. Donc vous, avec votre plateforme, en fait, vous fabriquez déjà de la farine qui est mise à disposition pour que les gens l'utilisent pour faire les beignets, par exemple. Et vous avez créé des niébé trocs, c'est-à-dire des petits camions hein, qui vendent le niébé sous forme d'abobo, de ragoût ou d'ata, de beignets, pour que, voilà, élargir la clientèle un peu.
Voilà, exactement. La transformation du niébé nécessite beaucoup de temps et également du travail de transformation. Mais le niébé est également un produit qui se décline vraiment en plusieurs dérivés alimentaires qui sont prisés dans la consommation urbaine. C'est une alimentation nutritive, donc au plan nutritionnel, assez bénéfique pour les populations, mais accessible à des coûts abordables. Ce dispositif Niébé Truck est conçu en fait pour améliorer les conditions de production et de vente des produits à base de niébé avec les femmes pour répondre à des questions sanitaires, pour permettre aux femmes d'exercer dans des meilleures conditions, pour leur permettre d'accroître leur capacité de production au quotidien, pour répondre à une demande de consommateurs qui s'accroît, et également pour faire face aux problèmes d'urbanisation et de modernisation de la ville et dans laquelle ces artisans traditionnels ne se retrouvent plus facilement du fait des dispositifs assez traditionnels de production qu'elles utilisaient. Et la mise en place de ce food truck vient répondre, c'est une solution technologique en réponse à une dynamique d'urbanisation, tout en préservant le volet assez traditionnel des recettes des produits à base de niébé.
Et vous avez même créé une journée du niébé, Éric Malézieux, développer des filières locales, hein, comme celle dont nous parlait à l'instant Faridat. C'est essentiel, d'autant que le bilan sanitaire de l'alimentation à l'échelle mondiale est catastrophique.
Oui, oui, absolument. Et je crois, enfin, les trois exemples qu'on vient de voir sont particulièrement éclairants, des nouvelles solutions qui émergent un peu partout, en Afrique, au Sud, partout. Avec cette montée en puissance finalement de la nécessité de nouvelles pratiques agroécologiques, de nouveaux systèmes alimentaires qui vont mieux connecter paysans et systèmes urbains. On voit bien que l'agriculture conventionnelle, qui a marqué un petit peu toutes ces dernières années, qui était fondée sur la monoculture, la mécanisation, l'emploi massif d'énergie fossile, d'intrants chimiques...
D'ailleurs, on se pose toujours la question de réduit... conventionnel. Pourquoi ? Parce que qui a passé la convention avec qui ?
Convention, parce que c'est celle qui était répandue, parce que c'était le message général des politiques publiques dans le monde, finalement, qui visaient à... et qui ont réduit, finalement, le nombre d'espèces cultivées. Et on voit bien là la nécessité de redécouvrir... toutes les espèces de la biodiversité cultivée, africaine en particulier. Et tout ça, on l'a vu dans les exemples-là, Andy a bien souligné la nécessité de trouver de nouvelles pratiques pour aller contre la dégradation des sols. Les engrais chimiques n'ont pas résolu le problème, finalement. Et il était important de développer des pratiques qui vont permettre de combiner à la fois une production alimentaire, parce que ça reste essentiel, mais aussi une préservation de l'environnement. Et il est clair que depuis une vingtaine d'années, c'est la montée en puissance de l'agroécologie qui va permettre, sur les principes de l'écologie basés sur l'utilisation de la biodiversité, de permettre finalement à la fois de produire et d'assurer des services écosystémiques, hein, c'est-à-dire qui vont permettre le maintien des sols, des eaux de qualité, qui vont ne pas émettre trop de gaz à effet de serre, et surtout nourrir les populations.
Alors, et les pratiques agroécologiques. Santé et des paysans et des populations.
Voilà. Alors, les pratiques agroécologiques, ça ne suffit pas, je veux dire. Et là, l'exemple de Farida le montre bien. C'est la réforme du système alimentaire doit être bien plus profonde, puisque c'est évidemment l'ensemble de la chaîne qui va de la production à la consommation qui doit être reconsidérée. Et on voit bien dans l'exemple du Bénin comment cette action-là bénéficie à la souveraineté alimentaire, finalement.
Nous connaissons donc les solutions. Alors pourquoi ont-elles du mal à s'implanter à grande échelle ? Qui a dit lobby de l'agro-industrie ? Ah non, personne, pardon, je croyais l'avoir entendu. Allez, nous allons décortiquer ces blocages avec nos invités. Mais tout de suite, je cède l'antenne à Ruby, son titre organique sur RFI.
To panic, and if the cause never stops, then I'll just undo the damage. I'd like my words to be free, some courtesy, please. I'd like our message red, then I'll have to be green. I'd like some better plants with some better seeds. And if they shut up for a second, then some truth or no. Don't know about what it means. Always us busting up my dream. The whole world's busting.
in the last seat. So do what I want and what I need. Say it like a free life and maybe you don't. And you can have a free ride but I know you won't. And you can ride the tide only if you can fly. I know that shit's sign, man, I think it's a joke.
C'était Organique de l'artiste britannique Ruby sur RFI.
R.
F. I.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
À l'occasion des 40 ans du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, nous nous demandons comment nous pourrons nous nourrir quand nous serons 10 milliards en 2050, tout en préservant l'ensemble du vivant et l'environnement. Alors certains sont déjà en train de répondre à cette question. Il y a nos invités, bien sûr, vous les avez entendus. Mais pour aller sur le terrain, je vous propose de nous rendre au Bénin, dans la banlieue de Cotonou, où les Jardins de l'Espoir démontrent patiemment, depuis 2015, que développer l'agroécologie en zone périurbaine, c'est possible. C'est un moyen de créer des emplois et de préserver l'environnement. C'est un reportage de Charlie Dupiot.
Bon, je me présente. Voilà, ici, je m'appelle Soumane Sambo. Et je suis en train de faire le répicage de l'artemisia. C'est une plante qui soigne les palis ici au Bénin.
Le jardin est entouré d'un muret, hein, on est dans la ville.
Ce que j'ai fait, la plus partie, ce que nous, on fait, nous, les jardins de l'espoir, on fait association, on associe les légumes. Dans une plante là-bas, je te montre, on a 3 à 4 variétés de produits. Là, si tu regardes bien, il y a piment, il y a basilic, il y a tomate, il y a curcuma, il y a fenouil, il y a l'artemisia encore, dans les mêmes planches.
Sur une planche, en fait, ce sont ces bandes hein, de terre surélevées un petit peu.
Ces lignes font 25 mètres, la laser 1,10 m. On a tout ça là. Donc c'est ça qui fait que mais je suis dans un petit plage, mais j'arrive à cultiver beaucoup.
Et vraiment, tout est proche, hein, en fait, tout s'entremêle.
Oui, tout est proche, mais ça ne les gêne pas parce que agroécologie, quand on dit agroécologie, c'est sans engrais, sans produits chimiques. Quand tu fais agroécologie, les associations que tu fais pour les plants, ils ne se gênent pas entre eux. D'ailleurs, même, ils se traitent entre eux.
Ce qu'on appelle la permaculture.
Voilà, c'est ça qu'on appelle permaculture. Voilà.
Donc c'est vraiment l'idée de les associer, de les faire pousser côte à côte.
Voilà, c'est ça l'idée. Et même là où on fait les carottes aussi, on associe les carottes et les oignons. Et les poireaux, tout ça, là, c'est dans les familles de l'oignon. Et avec la pluie, ça ne te dérange pas ?
Non, ça va. Là, en même temps, si on s'arrête à la pluie, okay. En cette saison, on n'est pas sorti.
Donc, je suis Tanguy Nikobou. Je suis actuellement le directeur exécutif des Jardins de l'Espoir. L'aventure a commencé en 2014. Nous avons créé notre première ferme à deux. Mais avant ça, nous étions des activistes. Nous le sommes toujours, mais avant, c'était activistes de parole, donc on était militants. Et puis au moment donné, on s'est dit, c'est bien de manger bio, de manger sain, de manger écolo. Donc on a décidé de passer à l'action. Nous ne sommes pas agronomes de formation.
Donc vous n'avez pas eu vraiment de formation, vous avez appris sur le tas.
Ouais, voilà, nous avons appris sur le tas. Et aujourd'hui, nous sommes 8 associés, nous avons 5 fermes et puis nous avons 17 collaborateurs. Et la personne qui nous a aussi inspiré, c'est Thomas Sankara, parce qu'on a vu qu'avec lui, il a dit que l'impérialisme vient d'où ? Il vient d'abord dans l'assiette que nous avons. Donc c'est pour ça que nous avons dit, on va attaquer la partie agriculture, la partie alimentation. On a aussi voyagé beaucoup. Il y a le voyage autour de la sous-région, les pays un peu avancés que nous, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, le Niger. C'est les pionniers, quoi. Par rapport à certains pays en Afrique de l'Ouest, le Bénin est quand même une très bonne dynamique parce que la différence entre les autres pays, c'est que les autres pays, c'est les personnes âgées. Mais au Bénin, c'est la jeunesse qui a vraiment pris le devant des choses. Donc c'est pour ça que pour nous, on s'est dit que c'est important d'avoir les fermes urbaines parce qu'il faut nourrir les villes. Qu'il n'y ait pas de nourrir les villes, il faut qu'on puisse se nourrir avec l'alimentation locale et pour qu'on puisse savoir d'où tous ces produits viennent.
Éric Malézieux, des activistes qui passent à l'action, les Jardins de l'Espoir à côté de Cotonou, au Bénin, c'est formidable ce qu'ils font, c'est vraiment de l'agriculture en zone périurbaine, du bio, de la permaculture, ça va vraiment dans le bon sens.
Absolument.
Ils sont prêts pour 2050.
Ils sont prêts pour 2050, absolument. Je pense que c'est ce type de solution émergente, localisée, adaptée aux situations, c'est exactement ce que l'on cherche à mettre en œuvre, à développer aujourd'hui face à une homogénéisation complète des façons de produire, de manger, etc. C'est au contraire le développement de toutes ces initiatives diversifiées et basées sur cette diversité de plantes qui permettra de résoudre la solution.
Florence Angabé-Fonté, je rappelle que vous êtes vice-doyenne, vous en charge de la recherche et de la coopération à la faculté des sciences de l'université de Bamanda dans l'ouest du Cameroun. Est-ce qu'il y a des exemples comme cela au Cameroun ?
Pour l'agroécologie, je ne suis pas très sûre, mais je sais que au sein de l'université, dans les fermes de l'université, il y a des départements qui essayent de pratiquer ou bien de montrer que l'agroécologie peut marcher. Mais dans la vie réelle, je ne sais pas si ça existe. Donc,
mais en tout cas, vous qui travaillez sur ce concept d'une seule santé, oui. C'est-à-dire la santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement, oui. C'est sûr que ce type de pratique va dans le bon sens. Et quand il y a des jeunes qui s'investissent développer cela, c'est une bonne nouvelle.
C'est ça, pas dans le même. L'agroécologie et santé unique, c'est ça. Il y a des interfaces très larges entre ça. Parce que quand on parle d'utiliser les biofertilisants au lieu des produits chimiques, ça va concourir à un aliment plus sain, mais ça va aussi résoudre le problème d'agroécologie et respecter les principes d'agroécologie. Mais en ce qui concerne le travail que nous faisons en partenariat avec des organismes internationaux comme le CIRAD, moi je dis toujours que c'est important que ça soit accompagné jusqu'au niveau où ça sera valorisé et utilisé par les paysans.
Oui, et alors il faut aussi que ça soit relayé au niveau politique. Andry Rassami-Manana, à Madagascar, l'État ne vous soutient pas beaucoup dans votre démarche d'apprendre les techniques agroécologiques aux paysans malgaches. C'est même un peu l'inverse.
Au point de vue de la politique publique, on a besoin d'une politique publique un peu forte pour l'accompagnement de transition agroécologique. Il y a déjà des initiatives venant de l'État, mais on sentait que c'est un peu sectorisé. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage fait un peu de l'agroécologie. Là aussi, à côté, le ministère de la Pêche et tout ça. Donc, c'est un peu sectorisé, mais on a besoin d'une politique forte, consolidée donc pour cet accompagnement de la transition agroécologique. Là, le financement, soutien à la recherche, formation, accompagnement.
Oui, et puis sécuriser aussi les droits fonciers, parce qu'il y a de gros problèmes d'accaparement des terres à Madagascar, comme cette affaire dans le sud-ouest, là, à Bamangoki, où il y a quand même 2000 familles paysannes qui pourraient être expulsées de leurs terres, cédées à des hautes autorités via des prête-noms. On parle quand même de 6000 hectares. Ça, c'est un vrai sujet à Madagascar.
À Madagascar, c'est pour cela qu'au niveau de FIFATA, il y a vraiment un service qui est très fait, la sécurisation foncière. Les agriculteurs ne sont pas vraiment tranquilles si leur terre n'est pas sécurisée. Et c'est vraiment une blocage pour la diffusion, l'adoption de techniques durables à l'agroécologie.
Farida Taboudou, vous êtes à la phase pilote du développement de la filière Niébé au Bénin. Qu'est-ce qui vous manque pour changer d'échelle? Vous allez me dire de l'argent peut-être, mais pas seulement.
Oui, on a besoin d'argent, mais on a besoin aussi d'un accompagnement politique, d'une volonté politique à engager le soutien de cette approche, parce que l'utilisation du food truck permet de répondre à une demande croissante sans détruire l'environnement, parce que le food truck fonctionne avec un système de biocombustible, préserve la contamination des aliments par les hydrocarbures aromatiques polycycliques et permet également aux artisans de conserver ce patrimoine et les procédés traditionnels de production et de faire perdurer un patrimoine culinaire important dans la culture. Du coup, on a associé la mairie pour nous assurer d'un bon ancrage institutionnel.
La mairie de Cotonou
notre, oui, la mairie de Cotonou, de notre approche. Et pour le moment, la phase pilote se déroule, mais nous aspirons à une mise à l'échelle sans déposséder les artisans de ce travail-là et d'injecter du budget pour permettre aux autres artisans, parce qu'on parle de 2500 artisans concernés, de pouvoir assurer que chacune des artisanes a un équipement qui lui permet de produire dans des conditions adéquates, mais également qui assure la vitrine de la mairie de Cotonou comme ambassadeur culinaire avec les produits à base de Niébé.
Éric Malézieux, en conclusion, c'est une transition systémique qui est nécessaire aujourd'hui pour nourrir justement 10 milliards d'humains en 2050.
Oui, absolument. C'est vraiment l'ensemble du système alimentaire, qui est des systèmes alimentaires qu'il faut réformer et créer de nouveaux en essayant d'accompagner justement les petits agriculteurs qui ont forcément certaines résistances au changement de par leur précarité, la difficulté d'accès aux fonciers, etc. Comment co-concevoir avec eux de nouveaux systèmes aussi? Comment échapper aussi aux pressions économiques et commerciales, finalement, et la dépendance aux grands groupes qui maintiennent la situation vers l'agriculture intensive? Beaucoup de gouvernements sont encore dans des subventions aux intrants, aux pesticides. Comment changer, finalement, ces politiques publiques pour aller vers, pour accompagner cette transition agroécologique qui va permettre d'améliorer l'alimentation et en particulier l'alimentation des plus démunis?
C'est une bataille difficile mais nécessaire. Je pense que nous l'avons démontré dans cette émission. Nous arrivons à la fin. Je suis désolée, je ne peux plus vous donner la parole. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Caroline Fillette et à Sophie Delamussia pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.